7 milliards de voisins avec Emmanuel Bastide pour les voisins et les voisines.
Bonjour, bienvenue, 7 milliards de voisins. Aujourd'hui, nous parlons des grands défis de l'eau potable et de l'assainissement dans les villes du Sud. Partout, vous le savez, les habitants réclament de l'eau potable chez eux, un robinet à la maison, à un tarif raisonnable. Actuellement, si on regarde par exemple les villes africaines, ce sont bien souvent les quartiers les plus pauvres qui payent le mètre cube d'eau le plus cher du continent auprès des bornes fontaines, faute de réseau d'eau. Mais seulement apporter l'eau, ça veut dire disposer d'un réseau aussi d'assainissement des eaux usées. Nous allons en parler avec de jeunes professionnels dans le studio de 7 milliards de voisins. Ils font partie du réseau Projection et ils se réunissent en ce moment à Paris pour partager leurs difficultés. Et puis ils ont aussi des messages à diffuser en direct aujourd'hui à l'adresse des jeunes dans leur pays. Oui, l'eau et l'assainissement constituent des métiers d'avenir. Il y a de l'emploi, on va en parler avec vous, André Kwame Nguessan. Bonjour.
Bonjour, madame Bassine.
Vous arrivez ce matin même d'Abidjan. Vous êtes sous-directeur de la planification et du développement à l'Office national de l'assainissement et du drainage, l'ONAD, à Abidjan. Habibou Doudou, bonjour.
Bonjour, Emmanuel Bastide.
Vous êtes nigérien. Ouais. Vous travaillez pour la société d'exploitation des eaux du Niger, une société privée, donc filiale de Veolia. Vous êtes chef d'exploitation à Agadez. À combien? 1000 km de
Niamey? À peu près 1000 km de Niamey.
Et vous êtes aussi secrétaire général de l'association des jeunes professionnels de l'eau et de l'assainissement. Voilà. Et Gwenaëlle Prier est également avec nous. Bonjour.
Bonjour Emmanuel.
Vous appartenez au réseau Projection, donc l'association internationale qui rassemble plus de 500 jeunes professionnels qui travaillent dans des, ce qu'on appelle les services essentiels pour les pays du Sud. L'eau, l'assainissement, la gestion des déchets, puis il y a aussi la mobilité, l'énergie. Mais on va déjà se concentrer sur l'eau et l'assainissement. À mon avis, ça suffira. Et bien sûr, je vous sollicite, les voisins et les voisines, quelle est la situation chez vous pour l'eau potable et l'assainissement? Et puis aussi, si vous vous interrogez sur ces métiers, c'est le moment de questionner nos invités sur leur parcours et sur les bassins d'emploi disponibles dans ce secteur. Ils sont la nouvelle génération pour un secteur en plein développement. 33 1 84 22 71 71. Allez, je vous lis le bureau des plaintes sur le fil Facebook. Charmoc est à Epena, dans le nord-est du Congo. Braza, je suis consommateur. Le prix de la facture d'eau est à 12 000 francs CFA, c'est-à-dire un peu plus de 18 euros au Congo Braza. Pourtant, il y a des moments où l'eau ne coule pas, mais les agents de la Société Nationale de Distribution d'Eau passent quand même déposer leurs factures. Et dans certains quartiers à Braza, les tuyaux sont bouchés, mais ils n'interviennent évidemment pas rapidement du tout. Il faut attendre des semaines ou des mois pour arranger ces tuyaux. Ce sont des plaintes que vous entendez chez vous, non, également, monsieur Nguessan, à Abidjan?
Oui, Abidjan, c'est essentiellement dans le secteur de l'assainissement, puisqu'il me concerne. C'est soit le dysfonctionnement des ouvrages, soit des regards qui sont en charge, donc qui s'écroulent dans les quartiers, dans les rues.
Voilà, avec l'eau sale qui déboule partout.
Réseau, voilà, de l'eau sale, donc c'est un peu moins du côté de l'assainissement.
Et c'est encore pire à la saison des pluies.
Oui, à la saison des pluies, effectivement, il y a quelques cas d'inondation où chaque fois nous sommes interpellés pour pouvoir faire face à ce que vivent les populations.
Mamadou nous dit aussi la même chose. À Conakry, c'est un véritable casse-tête. Les robinets sont là, secs. On ne voit de l'eau qu'une fois par semaine. On facture au forfait. Quant à l'assainissement, il n'existe que de nom. La ville affiche une image désolante. Beaucoup, beaucoup se plaignent de ces factures au forfait alors qu'ils ne voient pas d'eau couler.
Oui, en fait, les villes africaines ont un problème particulier, celui de la production souvent ne suit pas les besoins. Ça veut dire que la production elle est inférieure aux besoins de la population, ce qui fait dans certaines villes où la production est inférieure, on est obligé de faire un délestage. Ça veut dire il faut distribuer l'eau par quartier. Mais il y a une bonne relève qui est faite et les factures suivent chaque fin du mois. Mais le problème qui se pose, vous avez, on a un tarif par palier. Plus on consomme, plus la facture devient chère. Et dès qu'on a une fuite interne, et la facture change et c'est les plaintes.
Ouais, on va en reparler des gaspillages d'eau. Ça correspond à combien, les gaspillages d'eau à l'heure actuelle dans vos villes?
Oui,
par rapport à ce qui coule dans les tuyaux.
Si je prends le cas d'Abidjan où il y a eu un renforcement en termes de d'eau potable.
Ouais.
Donc il y a de l'eau qui vient aujourd'hui de Benoît pour renforcer Abidjan. Et donc aujourd'hui, il y a une étude qui montre que le gaspillage au niveau des établissements publics précisément, représentent plus de 60% de la consommation.
60%.
Mmh, gaspillage au niveau...
Qui part dans la nature.
Dans la nature. Ouais.
Et évidemment, plus l'eau vient de loin, plus le trajet est long, plus il y a des chances de gaspillage, non?
Non, en fait, c'est parce que les utilisateurs directs, ne voyant pas leur facture, donc ne sachant pas qui paye, n'ont pas cette habitude-là de pouvoir économiser l'eau. Et donc aujourd'hui, il y a un programme de réduction du gaspillage.
Vous voulez dire que c'est le consommateur qui est responsable du gaspillage?
Non, je parle des consommateurs publics.
Oui.
C'est-à-dire que tous les abonnés publics, que ce soit des établissements, des universités.
Couler.
Donc du coup, dans la mesure où l'établissement ne paye pas directement sa facture et que cela remonte au nom de l'État, donc du coup, il n'y a pas l'esprit de consommation mesurer que ces personnes observent.
Abi Boudou.
Oui, si, dans le même ordre d'idée, en fait, le gaspillage d'eau se trouve surtout au niveau de l'administration publique et les établissements dont c'est l'État qui paye les factures. Parce qu'ils ne suivent pas les factures, ils ne voient pas ce qu'ils consomment et ils ne font aucun effort pour réparer les fuites internes.
Alors que la ménagère du coin, elle voit ses factures, elle fait attention.
La ménagère, ce qui est impressionnant, la ménagère, elle suit sa facture. Elle est très attentive par rapport aux pertes d'eau qu'elle va avoir parce que ça impacte sa facture. Et c'est des gens qui payent leurs factures. Mmh. Nous, aujourd'hui, tout notre effort, surtout au nom de l'association des jeunes professionnels, déjà, on est dans des villes où la production ne suffit pas. Ça veut dire aujourd'hui, il faut réduire au maximum ces pertes d'eau au niveau de l'administration et surtout les eaux non facturées aussi, les eaux qu'on perd sur les réseaux et surtout qu'on les oriente vers la population qui sont les vraies nécessiteux et qui payent aussi leurs factures à temps.
Et qui payent pour le gaspillage des autres. Michel Akpalimé, qui est dans le sud du Togo, nous dit l'eau, une partie seulement des habitants en disposent et ceux qui y ont droit subissent aussi des coupures. Exemple, dimanche dernier, de 16h jusqu'à lundi 20h, plus d'eau du tout. Evelyne à Douala nous dit merci de parler de ce sujet. Si vous saviez ce que nous buvons, vous diriez que c'est tout sauf de l'eau potable. Vous parlez tout le temps de l'eau potable, vous les spécialistes.
Oui.
Le mot est contesté là.
En fait, chez nous quand même au Niger, c'est une eau potable parce que c'est une eau, on respecte les normes de l'OMS et il y a l'État qui est le concessionnaire qui a un laboratoire privé qui fait des analyses contradictoires. En plus, il y a les analyses même de la Seine et les résultats sont publiés. Ce qui veut dire aujourd'hui, on peut avoir des centres où c'est les eaux profondes. La nature du terrain peut faire en sorte que quelques paramètres ne respectent pas les normes, mais globalement, c'est des eaux qui ne présentent aucun danger pour la santé humaine.
Bon, Wilton est à Carrefour, qui est une banlieue de Port-au-Prince en Haïti, et nous dit, nous, on n'a plus d'eau potable depuis 4 mois, on ne consomme que de l'eau de puits pour se laver, se baigner et même pour la cuisine. Et quand on a soif, on achète des sachets ou des bouteilles d'eau. Donc on voit là aussi à quel point l'eau peut coûter cher dans les quartiers les plus pauvres. Sérigne à Dakar nous dit au Sénégal, excepté la région de Dakar et de Thiès, la qualité de l'eau fait défaut. Pour ce qui est de l'assainissement, n'en parlons pas, parce que ça n'existe pas. Les autorités ne s'en soucient même pas, alors que c'est un levier majeur de modernisation et surtout d'émergence. Ceci dit, Dakar a quand même réalisé des stations d'épuration.
Oui, je pense que pour réagir peut-être à l'intervention de l'auditrice tout à l'heure, il faut dire qu'au niveau de Dakar, il y a quand même un minimum d'infrastructures d'assainissement.
Que vous enviez à Abidjan.
Puisque nous sommes en partenariat avec l'ONAS, l'Office national de l'assainissement de Sénégal. Nous avons effectué des visites au niveau de leurs installations. Ils ont des réseaux, ils ont des stations de traitement, des eaux usées et même des stations de traitement des bouts de vidange. Donc je pense que l'un des défis qu'on doit relever en matière d'assainissement, c'est de pouvoir expliquer à la population ce que nous disposons déjà en matière d'assainissement et effectivement... C'est insuffisant, mais ça permettra de pouvoir relever qu'il y a un minimum qui permet d'améliorer le quotidien des populations. Sinon, il y a des ouvrages qui existent, il y a des stations qui existent au niveau Dakar.
Gros travail d'explication, c'est ce qu'on fait. On va dialoguer avec vous, les voisins, les voisines. Appelez-nous surtout, n'attendez pas la fin de l'émission, appelez-nous tout de suite. On parle de l'eau et de l'assainissement dans vos villes, un problème crucial du quotidien. 33 1 84 22 71 71. Gwenaël, priez si on prend un peu de hauteur. Les infrastructures, c'est clair, dans les villes du Sud et pas seulement sur le continent africain, ne parviennent pas à suivre la croissance des villes. C'est ça le problème de base.
C'est un des problèmes, effectivement, et faut peut-être rappeler quelques chiffres qui sont quand même très parlants. Il y a 50 ans, il y avait aucune ville en Afrique qui comptait plus d'un million d'habitants, et aujourd'hui, on n'en a pas moins de 38. Et donc, cette croissance énorme de la population urbaine, elle s'est faite par l'exode rural, mais aussi en interne, en croissance organique. Les gens, on sont restés là en ville, ils restent, font leur vie, font des enfants, et donc les villes croissent énormément. Et effectivement, faire des réseaux d'eau, faire des réseaux d'assainissement, c'est très cher. Il faut remuer de la terre, poser des tuyaux, former des gens, faire exploiter tout ça de bonne manière, facturer.
Ça rapporte pas beaucoup, c'est pas la start-up du siècle, hein, on va dire, l'eau.
Et c'est compliqué, effectivement. C'est des très gros investissements qui se rentabilisent sur très très longtemps. Et pour suivre la croissance urbaine, effectivement, on a du mal, on a beaucoup de mal.
Et en même temps, on prend une ville comme la vôtre, hein, Libou-Doudou, Agadez, plus de 70% de la population aujourd'hui a accès à l'eau
potable.
D'accord, l'eau potable du robinet. Donc, ça veut dire qu'il arrive à domicile.
Exactement.
C'est bien cela. Il y a 20 ans.
Pour vous dire que
vous avez progressé quand même.
On a beaucoup progressé ces dernières années. Rien que 2012-2013, il y a eu plus de 50 000 branchements sociaux. Les branchements sociaux, ça veut dire c'est faciliter l'accès à zéro franc. Ça veut dire pour les ménages, pour qu'il y ait un robinet chez eux. Je vais réfléchir un peu sur la définition de l'eau potable. Parce que nous, on donne l'eau potable au robinet. Mais chez les clients, les consommateurs considèrent qu'une eau qu'ils puissent au robinet reste toujours potable, alors que c'est pas le cas. Le produit qu'on met, le désinfectant, une fois qu'il est en contact avec l'air, après un certain temps, pour l'eau peut perdre sa potabilité. Et un phénomène qui se développe, qui est très dangereux pour nos pays, ce sont les eaux en sachet. Parce que ce sont des eaux qui ne sont pas faites dans des conditions aseptiques. Après, c'est des eaux qui sont contaminées. Mais comme c'est nous, la société qui distribue, on nous rejette la responsabilité. Parce que souvent, c'est un phénomène qui est vraiment très dangereux. Pour dire qu'aujourd'hui, le volet assainissement dans notre pays, au Niger, moins de 9% de la population du Niger n'ont pas accès à l'assainissement des bases. Et avec l'effort croissant qui est en train d'être fait dans l'accès à l'eau potable, ça veut dire plus vous donnez de l'eau potable, plus vous allez récolter des eaux usées. Quel est le devenir de ces eaux usées? Ce qui fait aujourd'hui au Niger un problème crucial, surtout dans nos rues, parce que les eaux sont jetées dans les fosses septiques. À Agadez, ils ont des fosses septiques dans la rue. C'est pratiquement chaque soir, ils déversent les eaux usées dans la rue. C'est pas, vous voyez ce que ça fait. Et ils doivent cohabiter ces fosses septiques avec le réseau d'eau potable. Et aujourd'hui, la décentralisation, les mairies doivent prendre les responsabilités pour qu'il y ait un réseau, pour sensibiliser la population à faire leurs fosses septiques à l'intérieur des maisons. Mais aujourd'hui, c'est un sérieux problème, c'est un débat de tous les jours. Oui, et ça peut être un risque sanitaire aussi.
Ça coûte très cher de faire une fosse septique à l'intérieur d'une maison.
C'est le même coût. C'est le choix entre le faire à l'intérieur ou à l'extérieur. Les gens préfèrent gérer leur terrain de l'intérieur et puis le faire dans la rue.
À Abidjan, où vont les eaux usées?
Déjà, pour pouvoir donner une photographie de l'assainissement au niveau national, il faut dire que il y a un quart de la population qui a accès à l'assainissement amélioré.
Ouais, en Côte d'Ivoire.
En milieu urbain, on a 36% de la population qui a accès à l'assainissement amélioré. En milieu rural, c'est autour de 11%. Et donc aujourd'hui, par rapport à la question que j'ai posée tout à l'heure, il y a des efforts qui ont été faits jusqu'à présent. Et aujourd'hui, il faut noter que avec une évolution du cadre institutionnel dans une réforme dans le secteur qui a lieu, il y a eu la création de l'Office national d'assainissement de drainage qui, dans son programme de développement, compte améliorer dans les 3 années qui viennent ces taux d'accès à l'assainissement.
Quand vous parlez d'assainissement, est-ce qu'on peut l'expliquer plus simplement? Ça veut dire quoi avoir de, quand on est un habitant d'une grande ville africaine, ça veut dire quoi avoir de l'assainissement en bas de chez soi?
Oui, en fait, déjà comme il y a plusieurs voisins donc qui ont plusieurs niveaux de compréhension, donc je vais prendre les aspects très basiques. Donc en fait, l'assainissement, c'est le fait de doter une ville ou une localité d'ouvrages, donc ça peut être des caniveaux pour pouvoir évacuer les eaux pluviales, pour éviter qu'il y ait des inondations, ça peut être de gros canaux. C'est le fait également de doter une ville de réseaux.
Ça veut dire qu'on n'a en principe pas d'eau putride qui passe devant chez soi.
Voilà,
en principe,
donc
tout ça est enfoui dans des canalisations.
C'est de faire en sorte qu'ils puissent avoir une bonne gestion des eaux usées, une bonne gestion des eaux pluviales et l'assainissement même dans sa définition de base prend en compte également les déchets solides. Donc en un mot, c'est de faire en sorte que les eaux usées, les eaux pluviales soient gérées de sorte à éviter que ça contamine les populations, de sorte à éviter que ça crée des problèmes de sécurité, de sorte à éviter que ça crée des maladies.
Vous nous appelez les voisins et les voisines au 33 1 84 22 71 71 tous les problèmes qui concernent l'eau et l'assainissement dans vos villes aujourd'hui.
7 milliards de voisins, C'est vous qui faites l'émission.
Nous sommes en ligne avec un voisin qui nous appelle de Conakry. Bonjour cher.
Bonjour Emmanuel.
Vous êtes en Guinée, vous voulez nous parler du problème des bornes fontaines à Conakry?
Oui, justement. En Guinée, nous utilisons aussi les bornes fontaines. À un moment donné, la société de distribution des eaux en Guinée en avait implanté un bon nombre dans plusieurs quartiers de Conakry. Mais de nos jours, il se trouve que 30 à 40% de ces bornes ne sont plus fonctionnelles. Ce qui est surtout difficile, l'eau dans ces bornes coûte plus cher que si vous étiez directement abonné à la FEG. Effectivement, j'ai écouté le monsieur qui intervenait, il a parlé du cas de Cameroun et de la Côte d'Ivoire. Je me dis que ces gens-là sont beaucoup plus chers que nous, parce que nous, un bidon de 20 litres ici coûte 100 francs. Alors que le mètre cube pour un abonné à la FEG coûte environ 950 francs guinéens.
Mais pourquoi? Alors qu'on explique bien, les bornes fontaines, c'est l'eau des pauvres en fait. Hein. C'est quand vous n'avez pas les moyens de vous raccorder au réseau d'eau, si j'ai bien compris, hein, cher.
Oui. Justement, c'est que les bornes fontaines ici, c'est quoi? Ce sont des bornes qu'on implante dans certains quartiers qui n'ont pas accès à l'eau potable, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de conduit d'eau. Et donc ces gens viennent se ravitailler là-bas ou dans des quartiers où il y a des conduits d'eau, mais l'eau ne coule pas dans les robinets.
Et pourquoi ces bornes fontaines ne sont plus en service dans ces quartiers-là à Conakry?
Bon, parfois aussi c'est la population qui décourage la société de distribution parce qu'ils en font un mauvais usage. Et parfois même c'est la société qui délaisse carrément l'utilisation de ces bornes fontaines.
Oui, vous soulevez un vrai problème là, effectivement, parce qu'il y a une eau à deux vitesses, on va dire, dans les villes africaines. Hein. Il y a l'eau potable qui arrive au robinet, et puis les bornes fontaines. Merci beaucoup de votre témoignage. On prend le témoignage de Mohamed qui est à Libreville au Gabon. Bonjour Mohamed.
Bonjour madame.
Vous êtes dans le quartier de Dakébé Plaine à Libreville et vous n'êtes pas du tout satisfait.
Pas du tout madame, sincèrement. Ça fait pratiquement près de 2 ans que nous sommes privés de l'eau. Ah, on a l'eau qu'à partir de 3h du matin, de 3h à 5h du matin, c'est tout. Alors qu'il y a un problème d'assainissement, Libreville n'est pas du tout loti. Si c'était loti avec la fontaine, je ne sais pas où on pouvait creuser le puits pour faire quelque chose.
Mais là, vous parlez d'eau qui arrive à la borne fontaine ou qui arrive au robinet chez vous?
Le robinet chez nous, bien sûr, ça manque un peu. Moi, je ne sais pas, ça nous perturbe même le travail, hein, parce qu'il faut veiller toute la nuit hein, pour attendre l'eau. L'eau, c'est la vie. On ne peut pas vivre sans l'eau, madame.
Oui, donc du coup, ça veut dire du temps perdu et c'est une perte économique aussi.
Souvent, il y a du matin, je ne peux pas me lever. Je dois aller au travail à 6h du matin, mais je ne peux pas me lever à 6h du matin étant que je dois utiliser l'eau à partir de 3h du matin. Je dois attendre que l'eau me trouve là, à côté de la pompe pour puiser de l'eau. Et je ne suis pas le seul, on est nombreux.
Merci pour ce témoignage édifiant, Mohamed. À Libreville, vous êtes commerçant. Alors, qui veut réagir déjà sur le manque d'eau, sur le problème des bornes? allez-y tous.
Ok, merci aux auditeurs qui ont intervenu. Le problème de bornes fontaines, c'est un sujet sur lequel on a beaucoup travaillé. Parce qu'en réalité, les bornes fontaines, elles sont faites dans les quartiers où c'est difficile de mettre en place un réseau, des quartiers non lotis dont il a dit, ou bien au bout du réseau.
Ouais. Par exemple, chez vous à Agadez, les ruelles sont hyper étroites, donc faire des ouvrages là-dedans, c'est compliqué. Il vaut mieux installer des bornes fontaines,
c'est ça,
simplifier le système.
Exactement. Et c'est des tarifs sociaux, parce que l'État prend en charge une partie. Quand même, l'exemple au Niger, si vous prenez le coût de mètre cube d'eau, est deux fois supérieur que le prix de vente d'eau au niveau des bornes fontaines. Ce qui veut dire, théoriquement, l'eau devrait être moins chère.
C'est ça. Mais il y a le tarif social, il est théorique.
Il est théorique. J'ai dit il est théorique parce que qui gagne? C'est le fontainier. Les fontainiers, l'État a fixé un prix qu'ils ne respectent pas. Ils vendent au minimum au double du prix qui a été fixé. Ce qui fait que la population qui veut prendre l'eau aux bonnes fontaines achète nettement plus cher, 2 à 3 fois plus cher que quelqu'un qui a un branchement particulier chez lui.
Le fontainier va vous dire, il faut bien que je vive et je fais vivre du monde autour de moi. Je fais travailler des gestionnaires de bornes fontaines.
Il gagne déjà assez parce que si on fait un petit calcul, dont on n'aura pas le temps de le faire ici, rien qu'à respecter les tarifs, il gagne. Et moi, ce qui m'étonne du monsieur de la Guinée, Parce que chez nous, les bonnes fontaines, c'est très difficile qu'ils ferment.
Bon, on va y revenir. On n'a pas le temps de faire tous les calculs en direct, mais il y a un problème avec les bonnes fontaines, et pas seulement. Et bien sûr, l'eau courante, l'eau potable qui arrive chez vous. Abidou, Doudou, vous restez avec nous. André Nguessan également, je vais vous donner la parole juste après le flash. Et Gwenaëlle Prié aussi. Vous nous appelez, les voisins, les voisines, au 33 1 84 22 71 71.
7 milliards de voisins, on est ensemble.
Bienvenue si vous nous rejoignez, 7 milliards de voisins, émission spéciale service indispensable dans les villes du Sud au quotidien, l'eau potable chez soi et l'assainissement. Avec vous André Kwame Nguessan de l'Office National de l'Assainissement et du Drainage. Là vous êtes à Abidjan, vous êtes en visite à Paris, à Bibou, Doudou, vous appartenez à la Société d'exploitation des eaux du Niger qui est une filiale de Veolia, vous êtes basé à Agadez donc au Niger et vous êtes également secrétaire général de l'Association des jeunes professionnels de l'eau et de la assainissement et également dans le studio Gwenaëlle Prié du réseau Projection qui est cette association internationale et qui rassemble, et c'est pour ça qu'on a le plaisir de vous accueillir dans l'émission aujourd'hui, messieurs les spécialistes, près de 500 jeunes professionnels qui travaillent dans les secteurs essentiels des pays du Sud. Les problèmes qu'on vient d'évoquer là avec des usagers qui évidemment racontent ces soucis-là du quotidien avec leurs mots, qui ne sont pas forcément des professionnels comme vous, mais ce sont aussi des problèmes que vous allez évoquer pendant la réunion du réseau Projection là, à la fin de la semaine, Gwenaëlle Prié.
Oui, c'est des problèmes qu'on va aborder devant un public d'étudiants et de futurs jeunes professionnels, parce que notre objectif
en région parisienne, là,
ces deux prochains jours, effectivement, à la Maison des Associations à Paris, dans le 13e, c'est de donner aux futurs professionnels, certains, beaucoup de Français effectivement, mais on a aussi plus d'une centaine d'Africains qui sont inscrits, qui seront là présents dès demain et après-demain. On veut leur donner l'occasion de comprendre un petit peu quels sont les métiers du secteur, comment les gens travaillent ensemble, qu'est-ce que c'est qu'une banque de développement, qu'est-ce que c'est qu'un bureau d'études, et puis d'aborder ces problèmes, l'accès à l'eau, l'assainissement dans les bidonvilles, à quoi ça sert de se donner des objectifs post-2015, les grandes institutions se donnent des objectifs chiffrés, est-ce que ça sert à quelque chose, comment est-ce qu'on fait travailler l'eau et l'assainissement ensemble, donc de débattre de tous ces sujets avec des jeunes professionnels.
Vous avez le sentiment, Gwenaëlle Prié, que vous êtes tous des trentenaires là autour de la table, c'est pas pour rien, c'est une association qui rassemble des jeunes, vous avez le sentiment que les jeunes sur place, notamment sur le continent africain, cette jeune génération a une vision commune sur comment enfin prendre à bras le corps des problèmes dont les politiques ne se saisissent pas pour le moment, pas suffisamment.
Moi j'ai l'impression, oui, on voit des associations comme celle dont Doudou peut parler au Niger, comme le réseau Projection également, où on voit 300 personnes en Afrique qui se rassemblent pour discuter ensemble des problèmes, pour parler entre secteurs, que l'eau ne reste pas dans son coin, l'assainissement dans l'autre, que les opérateurs privés restent dans leur coin, les institutions publiques restent dans l'autre. Et donc je pense que oui, on essaye de montrer qu'il est possible de travailler ensemble. Donc
travailler ensemble en réseau, c'est ça, en collaboration les uns avec les autres. Ça, c'est vraiment votre génération là.
Oui, je pense que à ce niveau, moi je suis vice-président africain du réseau Projection, et donc les personnes, en fait les membres du réseau sur le continent, donc les sessions que nous avons eues dans les différentes capitales de l'Afrique montrent que la jeunesse aujourd'hui s'intéresse aux services essentiels, que ça soit l'eau, l'assainissement, le transport, la mobilité, l'énergie. Et donc aujourd'hui, le réseau Projection a pour objectif de pouvoir accompagner cette jeunesse à maintenir cette ambition de vouloir être demain le leader qui doit pouvoir régler les problèmes d'assainissement, régler les problèmes d'eau. Donc c'est aujourd'hui que nous devons donner cette envie-là aux étudiants, cette envie aux futurs professionnels de prendre le métier des services essentiels comme des métiers d'avenir, comme des carrières pour leur vie, et donc pour pouvoir sauver, on peut dire, l'Afrique ou les populations des problèmes récurrents, des problèmes quotidiens que nous vivons.
Alors justement, on va parler dans quelques instants des carrières, des emplois. Il y a énormément de métiers que les jeunes connaissent mal, finalement, ou qui sont peu valorisés. Juste avant, je voudrais quand même qu'on laisse la parole à des auditeurs, parce que évidemment, là, les auditeurs, avant de se lancer dans ces carrières-là, ce qui les intéresse, c'est l'eau qui coule au robinet et puis les caniveaux bouchés devant leur maison. 33 1 84 22 71 71, on laisse la parole à Souleymane est en ligne avec nous à Abidjan, tiens, ça tombe bien justement pour Monsieur Nguessan.
Ouais, c'est bon, ouais.
Bonjour Souleymane.
Souleymane. Bonjour Emmanuel.
Vous êtes en direct, bonjour, j'ai 7 Emmanuel. Milliards.
Bonjour 7 milliards de voisins. Voilà, je suis Souleymane, j'appelle d'Abidjan. Et chez Abidjan, au niveau du quartier Ramblin, nous avons un véritable problème d'eau potable. Oui. Et imaginez, moi, je suis un cadre de l'administration. Je suis obligé de payer de l'eau dans des bidons de 20 litres. Et si je n'ai pas suffisamment d'argent, moi-même, je prends des bidons, je mets dans la voiture, je vais chercher de l'eau. Et comme il y a un risque d'intoxication, je suis obligé de payer l'eau minérale à 1000 francs, le bidon de 5 litres. Et vous voyez, ça creuse non seulement le budget familial, et puis bon, il y a un risque d'intoxication.
Vous achetez des bidons, vous chargez dans la voiture, vous achetez de l'eau minérale pour la famille, pour l'alimentation, et alors que vous êtes raccordé au réseau d'eau potable.
Et ça fait 5 ans, Emmanuel, que l'eau ne coule pas dans les robinets. Plus de 5 ans même, je dirais.
Bon, ça tombe bien, parce que vous savez, on a dans le studio, justement, André Kwame Nguessan de l'Office National de l'Assainissement et du Drainage. Alors, peut-être que vous pouvez nous donner une explication,
M. Nguessan. Au niveau du quartier Ramblais, dont je le disais tantôt, c'est que nous avons, au niveau d'Abidjan, des quartiers où il y a des baisses de pression, allant jusqu'à la coupure. C'est un peu le cas de ce quartier. Et donc, en termes de renforcement, il y a eu aujourd'hui des travaux qui ont été réalisés au niveau de Bonnois qui permettent de renforcer l'alimentation en eau au niveau de la partie sud d'Abidjan. Donc toute la zone de Port-Boué, toute la zone de Marcoury, de Koumansi, de sorte à ce qu'ils puissent avoir une eau 24 heures sur 24 au niveau des robinets. Sinon, effectivement, sa plainte est légitime.
Il y a des baisses de pression. Dans le quartier de Souleymane, c'est le quartier...
Le Ramblais.
Oui. Oh, oui. Dans combien de temps il pourra avoir de l'eau au robinet, ne plus charger sa voiture avec des bidons d'eau?
En fait, c'est ce que je peux dire, en fait, pour ne pas peut-être prendre des engagements qui ne seront pas tenus en termes de temps. Mais ce que je peux dire, c'est que la station de traitement des eaux qui doit venir au Bonnois est terminée. La conduite d'emmener d'eau jusqu'à Abidjan est réalisée. Donc aujourd'hui, il y a, il peut voir au niveau du rond-point de Koumansi, il y a la réhabilitation du château d'eau qui doit pouvoir permettre de desservir tout le quartier et donc d'alimenter ces populations. Ouais. Donc aujourd'hui, ils sont des raccordements sur l'ancien réseau qui sont en train d'être réalisés.
On voit bien qu'évidemment les travaux sont longs, lents, hein, les décisions aussi, les financements arrivent lentement et les consommateurs sont très impatients. Merci Souleymane
Sur ce côté, je pense que les délais ont été bien tenus. Je pense que les problèmes se réglaient très rapidement. Les délais des travaux ont été respectés.
À l'échelle d'une famille, vous voyez, quand il nous dit que ça fait 5 ans que l'eau ne coule pas, évidemment, on comprend son impatience. On est obligé de prendre d'autres auditeurs parce que ça se bouscule au standard. Merci Souleymane pour votre appel. Nous sommes en ligne avec Francis en région parisienne. Bonjour Francis.
Bonjour.
Francis, vous êtes guinéen, je crois. Vous êtes un professionnel du secteur de l'eau. Vous êtes en France parce que vous venez de terminer, ça tombe bien, un master eau assainissement, c'est ça, à Montpellier, à l'université de Montpellier?
Oui, bon, pas à l'université de Montpellier, à AgroParisTech.
Ah d'accord, pardon, oui.
Et bon, en collaboration avec MilleParisTech. Mm-hmm.
D'accord, donc formation très prestigieuse. Alors, vous souhaitez nous parler de la situation de l'eau et de l'assainissement en Guinée, chez vous?
Oui, en Guinée, qui est le château d'eau d'Afrique. Et paradoxalement, les populations sont sans eau. Voilà, bon, moi j'ai travaillé sur Conakry. J'ai travaillé à la Société des eaux de Guinée en tant que responsable technique pendant 4 ans. Et j'ai travaillé toujours à la Société des eaux de Guinée. Voilà, la ville de Conakry, qui est la capitale de la République de Guinée, à l'instant de toutes les grandes villes d'Afrique, et d'ailleurs, connaît une croissance démographique qui est très galopante et une urbanisation qui est vertigineuse. Alors, tout à l'heure, vos invités ont un peu touché, il y a l'exode rural, et l'accroissement du taux de naissance, qui fait que ces populations double quasiment toutes les décennies, si on peut le dire ainsi. Aussi, il y a l'étalage à l'horizontale de la ville qui fait que le réseau en place ne suit pas cet étalage. La ville s'agrandit de façon horizontale.
Donc il faut encore plus de kilomètres de canalisation, donc ça coûte encore plus cher que dans une ville du Nord.
Voilà. Et dans les villes du Nord, les villes s'étendent de façon verticale, les immeubles, etc.
Oui. Francis, je vois que vous avez 33 ans, donc vous avez choisi ce métier-là, l'eau et l'assainissement. Je ne sais pas, est-ce que vous allez vous rendre au réseau Projection là à la fin de la semaine, Gwenaël Prié qui...
J'espère qu'il sera présent à Défi Sud demain après-demain, oui, pour débattre avec nous.
À Paris, dans le 13e arrondissement, c'est le rendez-vous là, pour parler des défis sur votre continent.
Pour trouver un métier.
Avec plaisir, j'irai. Une autre chose, si vous permettez.
Rapidement, on a beaucoup de monde au standard, oui.
Voilà, donc, chaque fois on parle de l'aspect technique, hein, mais il faut dire aussi qu'au niveau de la gouvernance, les choses sont pas bonnes. Mmh. Il y a très souvent une très mauvaise gouvernance, tant à l'interne qu'à l'externe. Qu'est-ce que j'appelle gouvernance? Ceux qui sont appelés à gérer le service d'eau, au niveau institutionnel, les ministères de tutelle, l'immixion des politiques dans la gestion réelle du service, ça fait que au bout du fil, le service n'est pas bon. Mmh. Et quand tu prends Conakry, la desserte est insuffisante. C'est vrai, la capacité de production est inférieure à la demande. Et il faudrait que des nouveaux projets soient mis en place. À l'amont, si on met des nouveaux projets en place, on augmente la capacité de production, on étale les réseaux, il faudrait que la bonne gouvernance suive. Et ça, c'est la force des politiques.
C'est la force des politiques, mais c'est aussi la force de la nouvelle génération qui est de mieux en mieux formée. Vous êtes de plus en plus persuasif,
oui,
non?
Attendez, s'il vous plaît.
Oui.
La jeune génération, certes, mais si vous n'avez pas la main libre, si vous n'avez pas une mission que, comment dirais-je, les politiques vous donnent, vous dites, bon, voilà votre mission.
Oui. Et le carnet de chèques, bien sûr. Oui. On a bien compris. Réponse de André Nguessan, rapidement.
Il parle d'agro-paritech. En fait, j'ai fait cette formation également au niveau de Montpellier. Mais les problèmes qu'il soulève sont réels. Mais il faut aussi ajouter qu'au-delà du cadre institutionnel, on a également le mécanisme de financement qui ne suit pas. Parce qu'aujourd'hui, il ne s'agit pas d'investir, mais il faudrait aussi entretenir ces ouvrages. Il faudrait aussi avoir l'adhésion des populations au projet que nous faisons. Donc, il faudrait que les populations acceptent de payer le service. Quand on parle, par exemple, de l'assainissement, aujourd'hui, tout le monde dit que c'est le parent pauvre, mais parce que la population, à la base, ne veut pas réellement investir dans l'assainissement.
Parce qu'elle ne sait pas bien quoi c'est aussi faire,
service,
ça se voit pas.
Un service qui permet de pouvoir améliorer, du point de vue économique, le niveau de vie des populations.
Alors
aujourd'hui, on va pouvoir aller vers le paiement de services pour que les services soient de plus en plus efficaces et rentables.
Oui, Abibou Doudou.
Oui, il a touché du doigt vraiment le problème. C'est surtout celui de la planification, parce que vous savez, dans nos pays, le taux de croissance, par exemple au Niger, le taux de croissance urbain est de 4,39%, et avec le changement climatique, l'exode rural, ce qui veut dire qu'il y a une forte concentration de la population humaine et le développement des quartiers non lotis. C'est pour cela que j'ai dit à notre auditeur. L'un des objectifs du réseau Projection, c'est que les jeunes sont en train de s'organiser de plus en plus pour porter leur voix, pour qu'ils puissent intervenir et dire leur mot sur les grands au niveau des instances internationales. Et beaucoup de jeunes aussi sont en train de s'organiser. C'est le cas de l'Association africaine de l'eau qui a mis en place dans presque tous les pays l'Association des jeunes professionnels de l'eau et de l'assainissement, dont le premier forum a eu lieu à Abidjan, qui a été sanctionné par une déclaration des jeunes professionnels de l'eau et de l'assainissement.
Alors, vous êtes quand même venu aussi dans cette émission, vous me l'avez dit quand on a préparé l'émission, nous on veut expliquer aux jeunes que c'est un secteur porteur, que il y a des investissements des bailleurs internationaux dans les années à venir. Monsieur Nguessan, vous m'avez dit que là, si on prend l'ensemble du BTP, il y a un gros pourcentage qui est consacré à des travaux d'assainissement, hein, notamment, oui. et d'apport d'eau potable.
Oui, c'est ce que nous défendons aujourd'hui, c'est que le métier de l'assainissement est un métier d'avenir, c'est un métier porteur. Donc
les jeunes le savent, ils sont au courant, ça.
Et c'est ce que nous essayons de dire dans tous les forums où nous passons, parce que quand tu prends par exemple au niveau de la réforme institutionnelle, il y a une société d'État qui a été créée qui doit pouvoir recruter des personnes, dont les jeunes.
Oui.
Aujourd'hui, dans le métier de BTP, la plupart des travaux qui se réalisent aujourd'hui sont des travaux d'assainissement, où il faut des contrôleurs de chantier, il faut des chefs de projet, il faut des personnes pour encadrer des équipes de terrain. Donc il y a
Mais il faut avoir fait des années d'études pour tous ces métiers-là ou pas?
Oui, mais ces formations existent en fait, mais c'est l'orientation qui ne encourage les jeunes à s'orienter dans ces métiers qui ne suit pas. C'est-à-dire que ces jeunes préfèrent aller vers les télécommunications, vers les finances, mais dans nos pays, il y a des formations dédiées à l'eau et à l'assainissement. Donc nous encourageons ces jeunes à y venir parce qu'il y a assez de métiers, il y a assez d'emplois qui se créent.
Alors justement, on va parler de ces formations. D'abord, je voudrais juste dire qu'on peut pas prendre Yaya à Dakar qui voulait nous parler des problèmes de station d'épuration qui est trop vieille à Dakar. On peut pas non plus prendre tous les témoignages parce que il faut qu'on parle de l'avenir, de la place des jeunes dans ces métiers-là, dans ces nouvelles compétences. Abdoulaye est étudiant justement. Bonjour Abdoulaye.
Bonjour Emmanuel.
Abdoulaye, où êtes-vous exactement?
Je suis à Farana, dans le sud-est de la Guinée.
Oui, nous vous écoutons.
Bon, je disais, je fais des études en eau et assainissement. Mais depuis 3 ans, nous ne sommes que 2 étudiants à se spécialiser dans ce domaine.
Deux étudiants où dans votre ville, dans votre filière à l'université ou
dans notre filière à l'université.
Quelle université?
Vous êtes dans quelle université, nous demande Doudou.
Je suis à l'université de Farana, l'Institut supérieur agronomique et vétérinaire de Farana.
Et comment vous expliquez que vous ne soyez que 2 à avoir choisi cette filière alors que les besoins sont énormes? On a entendu un témoignage de Guinéens il y a quelques minutes.
Moi, je pense que c'est un problème d'information et d'emploi. Je pense que c'est facile d'avoir l'emploi dans le domaine de la poste.
La ligne se dégrade, je suis désolée, mais je crois qu'on a compris l'essentiel de votre intervention. Les jeunes ne sont pas au courant des métiers, on va expliquer exactement quels sont ces métiers. Les jeunes ont aussi le sentiment qu'il n'y a pas d'investissement public aussi pour mettre en place de nouveaux ouvrages, apporter l'eau courante, installer l'assainissement. Qu'est-ce que vous répondez, Habibou Doudou?
Et pour dire qu'actuellement, il y a beaucoup d'investissements, au contraire, surtout dans le domaine de l'eau potable. Et aujourd'hui, aucun projet d'eau potable ne passe sans qu'il y ait accompagné de volets assainissement, parce qu'aujourd'hui beaucoup d'efforts ont été faits dans le domaine de l'eau potable, mais ils ont eu la patte à la main parce que tous ces eaux que les gens sont en train de consommer sont rejetées dans la rue. Pour dire qu'aujourd'hui il y a beaucoup de métiers, il y a beaucoup de jeunes qui s'orientent dans ces métiers, parce que si on prend aujourd'hui les ONG, l'État et nos entreprises recrutent beaucoup. Parce qu'aujourd'hui, ce sont des thèmes d'actualité, l'attente des OMD, l'après 2015, et il y a beaucoup d'efforts et il y a beaucoup de postes qui se créent dans ce secteur.
Alors, on a un auditeur qui nous appelle de Libreville, Pierre, et qui est ingénieur des eaux diplômés. Bonjour Pierre.
Bonjour Emmanuel.
Pierre, vous avez 28 ans, vous souhaitez intervenir.
Oui, je souhaite intervenir justement par rapport à ce que le monsieur vient de dire à l'instant. Donc, je disais tantôt que je suis ingénieur en traitement des eaux, diplômé de l'Algérie, de la faculté des sciences de l'ingénieur de Boumerdès. Mais cependant, je suis rentré au Gabon. Depuis 2012, je ne trouve pas de travail. Et effectivement, j'avais cette vision en étant étudiant, comme quoi les problèmes d'eau en Afrique, en faisant une formation dans le domaine des eaux, j'apporterai en fait ma contribution à la résolution du problème d'eau. Mais là, je suis rentré. Déjà, le Gabon, c'est un pays où il n'y a qu'une seule société qui gère la question des eaux au Gabon. En fait, la grande société d'énergie d'eau du Gabon, qu'il y a de Veolia. Donc, si tu ne trouves pas d'emploi là-bas, ça devient un peu compliqué pour toi de trouver ailleurs. Bon, je me suis battu, je suis allé au niveau de la CEAC, donc la communauté des États, la communauté économique des États d'Afrique centrale. Il y a un projet actuellement qu'on appelle le projet GIR, la gestion intégrée des ressources en eau. Et dans ce projet, il y a un volet, si je me rappelle bien, le volet 8. En fait, ça, c'est un volet qui dit qu'en fait, c'est la formation. En fait, il mise sur la formation des jeunes pour prendre en fait ensuite la suite du projet, puisque c'est un projet qui est censé gérer les ressources en eau de la sous-région.
Alors,
et tout ça.
Habibou Doudou veut vous répondre déjà, parce que là, c'est quand même intéressant. Vous avez une bonne formation en Algérie, vous êtes revenu au pays, à Libreville, au Gabon. Vous dites que vous ne trouvez pas de travail parce qu'en fait, il n'y a pas suffisamment d'employeurs possibles aussi, probablement.
Exactement. Ouais. Si on prend sur le volet où il ne faut que le seul opérateur qui est sur place, il peut pas embaucher tout le monde. Mais aujourd'hui, si vous prenez dans nos pays l'hydraulique rurale, où il y a une gestion déléguée, aujourd'hui, c'est un secteur qui a besoin des professionnels du secteur. S'ils s'organisent, ils peuvent avoir de l'emploi et créer même d'autres emplois pour les jeunes.
Mais pour
les
jeunes, il faut partir en zone rurale.
Oui, mais...
Est-ce que les jeunes ont envie de partir en zone rurale pour aller travailler sur les métiers de l'eau et de l'assainissement?
Bon, lui, il dit qu'il veut amener sa contribution, je pense, pour servir son pays, là où on peut gagner son pain et puis travailler, parce que c'est un secteur qui est trop noble, il faut le dire. Aujourd'hui, en Afrique, plus de 80% des maladies sont hydriques. Aujourd'hui, tout jeune qui intervient dans le secteur de la desserte en eau potable, je pense qu'il contribue énormément à l'amélioration de la santé publique.
André Nguesson?
Oui, en fait, je pense que la question aussi revient au niveau des diplômés. Parce qu'il ne faut pas seulement regarder la fonction publique. Il ne faut pas regarder seulement les soutiens étatiques.
Là, en aujourd'hui, l'occurrence, on parlait plutôt d'un partenariat public-privé. Et Pierre nous citait Veolia.
Voilà, aujourd'hui, il y a des privés, donc ça peut être...
Oui, mais s'il y a un seul employeur privé et que vous n'êtes pas pris parce qu'il y a énormément d'étudiants, de diplômés qui postulent...
Même cette entreprise, cette grosse entreprise d'exploitation d'eau, à des sous-traitants, à des petites entreprises qui font tous les travaux sont externalisés. Donc, c'est de regarder au niveau national.
D'accord. Quels sont les sous-traitants qui travaillent avec la principale entreprise privée, c'est ça?
Normalement, c'est de voir au niveau de l'entreprise privée tous les sous-traitants qui travaillent avec eux, de voir également sur la place, au niveau national, quelles sont les différentes entreprises privées également qui travaillent dans le secteur de l'assainissement. Il y a également l'institution internationale. Parce qu'aujourd'hui, comme Doudou le disait, l'objectif pour pouvoir aller après la non-atteinte des EMD, c'est de pouvoir développer les infrastructures en eau et en assainissement.
Alors depuis le début, on parle quand même d'emplois très qualifiés. Vous nous parlez des ingénieurs ou des techniciens supérieurs. Je voudrais, Habibou Doudou, que vous nous donniez l'exemple, parce que vous travaillez avec votre association de jeunes professionnels dans le domaine de l'eau et de l'assainissement. Vous travaillez aussi avec des jeunes qui sont pas qualifiés du tout, qui n'ont pas pu aller beaucoup à l'école, ou en tout cas qui n'ont pas achevé le secondaire, c'est sûr.
Exactement. Et au passage, avant d'entamer le thème, je vais aller très rapidement, c'est que aujourd'hui, nos sociétés, ils ont des problèmes à avoir des sous-traitants qui sont qualifiés. Aujourd'hui, je pense que pour le jeune qui cherche de l'emploi, je pense que nos sociétés ont besoin des sous-traitants qualifiés du domaine. Et pour dire que sur le thème, aujourd'hui, il y a beaucoup d'emplois.
Mais alors, lesquels?
Lesquels, je vais vous les citer. Parce que aujourd'hui, vous prenez l'exemple du Niger sur le volet assainissement. Il n'y a pas d'infrastructure. C'est des petits opérateurs qui gèrent tout le volet assainissement au Niger. Aujourd'hui, c'est des volets qui rapportent beaucoup.
Qui font quoi comme travail?
Qui font, ça veut dire les vidangeurs des fosses septiques, ceux qui collectent les déchets solides. Et les porteurs d'eau, c'est qui dessertent
Mais quand vous allez voir des jeunes et que vous leur dites il y a un avenir pour être vidangeur de fosses septiques, est-ce que vraiment ça séduit les jeunes?
Ça se dit pas, parce qu'il
faut vendre des cartes téléphoniques dans la rue.
Ouais. Je vais vous donner un exemple qui est très précis. Il y a un jeune qui est venu du village qui travaille dans un foyer et gagne à peu près 15 000 francs CFA par mois. On a échangé avec lui, je lui disais qu'il pouvait...
Un jeune qui faisait quoi comme travail
Un domestique.
D'accord.
C'est un domestique qui gagne à peu près 15 000 francs par mois. D'ailleurs, on a échangé avec lui, je lui avais expliqué qu'il peut gagner plus en faisant la collecte des déchets solides. Parce que les ménages payent à peu près 1 000 francs par mois. Et quand il a fait le collecte, je l'ai orienté vers une ONG qui lui a procuré une charrette à motricité humaine. Quand il avait fait la collecte, c'est 1 000 francs par ménage. Il a gagné plus de 100 000 francs le mois, parce qu'en plus d'être les déchets, ils font des tri, ils trouvent des objets qu'ils revendent sur le marché chaque jour. Et finalement, il est devenu un vrai promoteur. Tous les gens de son village...
Il a augmenté son salaire de combien par rapport à son salaire?
Plus de 10 fois.
Ouais. Ah d'accord.
Plus de 10 fois.
Il a fait x10 par rapport à son salaire domestique en devenant vidangeur de fosses septiques.
Collecteur de déchets solides.
D'accord, collecteur de déchets solides. Pour un vidangeur de fosses septiques, c'est la même chose?
C'est la même chose, il peut gagner plus.
Est-ce que les jeunes le savent, ça, Doudou?
Les gens ne le savent pas, parce qu'il y a très peu de gens qui s'intéressent, et surtout dans l'esprit des gens, parce que nous, notre effort, c'est de faire évoluer les mentalités. Les gens les prennent comme des métiers qui sont dégradants, alors que c'est des métiers qui nourrissent son homme. Aujourd'hui, beaucoup d'efforts, l'association des jeunes professionnels réseau projection essaye de former, d'accompagner, de les organiser pour qu'ils puissent valoriser, et surtout pour leur propre sécurité. Vous savez, aujourd'hui, ils font ces métiers sans mesure de sécurité. Aujourd'hui, il faut les sensibiliser et un peu les orienter à avoir des équipements de protection individuelle pour leur santé et celle des...
Alors, tous les deux, évidemment, André Nguessan et Habibou Doudou, vous avez fait des études supérieures, vous vous êtes formés à l'étranger, vous êtes ultra passionnés par vos métiers. Quel message vous auriez à faire passer aux jeunes, à qui nous écoutent, qui sont dans des villes africaines et qui s'interrogent sur leur avenir, et en même temps, en tant qu'usagers, qui voient bien que ça ne fonctionne pas bien du côté de l'eau et l'assainissement? André Nguessan.
Ok, moi, le message que je fais passer, c'est que quand je parle de jeunes, je parle en même temps de ceux qui ont une formation de base et de ceux qui n'ont pas de formation. Donc, dans le secteur de l'assainissement, le secteur de l'assainissement permet de donner de l'emploi à tout le monde. Donc, tous ceux qui ont eu des formations qualifiantes peuvent avoir de l'emploi à travers des sociétés privées, à travers des sociétés d'État, à travers d'autres organismes internationaux. Mais aussi, ceux qui n'ont pas de formation qualifiante peuvent aussi avoir de l'emploi. À travers la vidange, aujourd'hui, on peut dire que la vidange des fosses septiques est de l'or aujourd'hui. Et donc, ils peuvent également développer ce secteur pour pouvoir gagner leur vie.
Il nous reste très peu de temps. Je voudrais qu'on donne aussi la parole à un voisin qui nous appelle de Conakry à Fizio. Vous avez aussi le mot de la fin par rapport à tout ce que vous avez entendu dans l'émission en tant que voisin. Nous vous écoutons.
Merci beaucoup. Donc, je dois d'abord vous féliciter pour cette émission.
Oui, nous vous écoutons. Hein. Vous êtes en direct, il vous reste très peu de temps.
Ok, donc je dis que moi j'ai bien écouté ce que vous avez dit et c'est tout est pertinent. Et je dirais que c'est un problème pour, en tout cas ce qui concerne le secteur de l'eau, c'est un problème de gouvernance. Pour moi, tout se résume avec ce problème. Si ce problème est résolu, on peut trouver la solution.
Ouais. Le mot de la fin, Habibou Doudou, sur le problème de gouvernance, les bassins d'emploi, le message pour les jeunes.
Ok, je vais m'atteler surtout sur le message des jeunes. Aujourd'hui, moi, je suis de nature à ne pas pleurer sur son propre sort. Aujourd'hui, on voit les jeunes sont en train de s'organiser de plus en plus pour porter leur voix, pour essayer un peu de bousculer l'ordre qui existe. Parce qu'aujourd'hui, les jeunes ne sont pas dans les instances de décision. Aujourd'hui, alors que c'est de l'énergie, ils ont beaucoup d'idées innovantes et ils sont passionnés du domaine.
Voilà, et ben c'est ce qu'on a fait aujourd'hui. En tout cas, on vous a donné la parole. Merci à vous tous. Alors Gwenaëlle Prier, le réseau Projection pour les jeunes qui nous écoutent en région parisienne et qui ont envie de, alors que ce soit des étudiants africains qui sont venus se spécialiser d'ailleurs en France ou des étudiants français qui ont envie de travailler dans le développement. Le forum se déroule dans le 13e arrondissement.
À la Maison des Associations, 10 rue des Terres au Curé, dans le 13e à Paris, métro 7 Porte d'Ivry et 14 Olympiade. C'est dès demain.
Dès
demain, 9h30 et samedi également toute la journée, avec des débats, des animations et beaucoup de rencontres.
Et pour partager les grands problèmes et les grands défis de l'eau et de l'assainissement dans les villes du Sud. Merci à tous les deux aussi. Vous étiez de passage à Paris donc à l'occasion de ce forum. André Nguessan et Habibou Doudou, merci. Surtout à vous les voisins et les voisines, vous le savez, tous les jours du lundi au vendredi, c'est vous vraiment qui faites l'émission avec vos témoignages et avec vos interpellations pertinentes. Merci à toute l'équipe. Cécile Lavolo, Jonas Malé-Solars, Romain Dubrac. Demain, 7 milliards de voisins, c'est la visite du coach Didier Côté. La parole est à ceux qui veulent entreprendre, monter leur entreprise en Afrique. Didier Côté vous écoute, vous conseille. C'est l'Afrique qui bouge, avec les jeunes, bien évidemment. Et surtout, vous nous appelez dès maintenant au 33 1 84 22 71 71. À demain, les voisins.